Le public n'a pas, comme dans les autres arts, une connaissance suffisante de l'histoire de la danse.
Pendant le festival Montpellier Danse,
saut de bichet entre chats,
chorégraphes, danseurs et festivaliers sont sur Divergence.
C'est là où il y a les plus profondes chances de créativité.
Divergence.
Je crois que les gens doivent se servir de la danse pour exprimer leurs propres idées.
Les grands noms de la danse acceptent de se produire.
Dominique Pajot,
Philippe Découflé,
Montpellier Danse,
Pina Bausch,
Mel Jocard,
Nagui Mar,
Raymond Hogue,
William Forsythe.
On voit ce qu'est vraiment la danse.
Mais je ne demande que ça.
Bonjour, il se pourrait bien que ce soit la dernière émission de ce festival Montpellier Danse. Bonjour Lucie.
Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
Ah, il y a un peu moins d'entrain que
Oh, mais si, mais c'est parce que c'est la fin, c'est pour ça.
Les auditeurs sont très accros à...
Non mais bonjour tout le monde.
Et on a un invité, bonjour Gérard Mayen.
Oui, bonjour.
Gérard Mayen qui est présent tout le long du festival, hein, parce que non seulement Gérard, vous écrivez sur la danse, puis vous êtes un spectateur attentif depuis quelques années maintenant.
Ça fait depuis mon arrivée à Montpellier, depuis 1988.
Et on peut dire quand même que le festival Montpellier Danse a été créé avant d'ailleurs. Hein. Ouais, ça.
80.
Ouais,
80.
Voilà, c'est ça, voilà. Parce que voilà. C'est 33 ans.
Extraordinaire.
Non, mais il en était question pendant la conférence de presse de clôture ce matin.
Donc Gérard, t'es là depuis le début sur festival.
Non, 88.
Oui, non, mais enfin, vraiment dans le début, quoi.
Voilà,
quasiment.
Oui.
Voilà.
Alors, aujourd'hui, dans cette émission, on parlera avec Gérard, on fera un peu le bilan de cette 33e édition. On va aussi entendre Peter Jacobson et Mathilde Monnier, parce que c'est eux qui vont clôturer le festival. Ce sera au Quorum ce samedi. Et puis, si on a un peu de temps, on écoutera Aurore, qui est une danseuse d'Emmanuel Gatt. Voilà, que j'ai pu rencontrer hier. Je lui ai posé des questions qui ne sont pas forcément indiscrètes, mais des questions qui sont, je l'espère, un peu intéressantes. Mais on va commencer avec un petit retour sur les robots. C'était hier, au Théâtre Comédie, Blancali revenait avec une histoire de robots. Alors, elle nous avait dit finalement, on n'est pas sûr que ça tienne la route, ils font n'importe quoi, ils vont trop vite, et ainsi de suite. Alors bon, et finalement, tout était quand même bien huilé.
C'est le premier spectacle de danse que je vais voir de ma vie. Je vais avoir 28 ans cette année et je suis extrêmement ému. Entre la mise en scène.
Un spectacle bouleversant, vraiment, c'est magnifique.
Moi, c'est déjà la beauté de la danse. Ouais. C'était l'alchimie qu'il y avait entre les robots et les danseurs. C'était absolument incroyable. La première scène où on voit le danseur avec le petit robot, moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup ému. J'aurais pas cru d'ailleurs. Et je sais pas. Après, je suis pas grand connaisseur de danse, mais je sais que ça m'a bouleversé.
On arrive à s'attacher à des robots. Je sais pas. Pendant le spectacle, il y a trop d'émotions qui viennent.
Je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais qu'il y avait une créativité et vraiment une articulation entre la mécanique et finalement le physique de ces danseurs, qui était passionnant. Passionnant, très beau à voir, très esthétique et en même temps mécanique, mais avec vraiment une créativité extraordinaire. Donc c'est vraiment du Biancali dans toute sa splendeur. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi.
Bésame. Faire danser des robots, c'est bien, mais c'est magnifique techniquement, mais c'est pas encore un spectacle de danse où on se dit on a vu un spectacle de danse. On a vu un défi technique et artistique, mais c'est pas encore un spectacle de danse. On l'a chanté dans les rues sous des ciels
inconnus et dans toute la France. Comment les humains pouvaient se robotiser, comment les robots pouvaient s'humaniser, elle a tout mélangé, c'était fabuleux. Une imagination, créativité incroyable.
Nous avons beaucoup aimé, mais on a appris ça plutôt comme un spectacle complet, plus que comme une chorégraphie. Voilà, et on a trouvé ça extrêmement joyeux, très enthousiasmant.
Des quoi? Des
mots méchants.
Ah non, là c'est génial.
Voilà, applaudissements nourris, c'était les plus gros applaudissements de tout le festival.
Ah bon, voilà. Vincent, carrément.
Oui.
T'as pas vu Israël Galvan, c'est pour
ah,
ça.
Ah oui, c'est vrai, j'y étais pas. Oui.
Ah, ouais, c'est
vrai.
Ça.
Alors tu voulais ajouter quelque chose sur,
oui,
ce retour.
Oui, sur le public, en fait, tous ces retours qu'on a eu tout au long du festival, finalement, mais... Merci au public parce que vraiment c'est extraordinaire, un public qui a quand même une éducation très forte sur la danse, donc à chaque fois des retours qui sont très 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 nourris, très riches, très précis aussi sur ce qu'on peut voir dans le spectacle. D'ailleurs, de même, juste les retours en fait nous permettent déjà de saisir l'esprit du spectacle, donc vraiment un public averti hein, qui commence à vraiment se développer et s'épanouir de plus en plus à Montpellier, voilà.
Gérard, du même avis. Alors, vous n'avez pas vu hein, Blancali, le spectacle d'hier, mais voilà, sur le retour qu'est capable de faire le public. Est-ce qu'il est bien éduqué? Comme on l'a entendu de la part de Jean-Paul Montanari ce matin, est-ce que le public montpelliérain, finalement, est un bon public?
Alors, bon au sens de qualité. Pas ce bon public, c'est très péjoratif.
Oui.
Il aime tout,
on est
quoi
d'accord.
Qu'il arrive. Au sens de qualité. Écoutez, je ne sais pas si je peux répondre à ça, mais je peux juste quelque chose, je sais, qui m'émeut. Comment dire, être dans une ville de danse, c'est quand même, oui, c'est particulier. Je pense, bon, mes goûts sont peut-être moins du côté de Blancali. Je pense, par exemple, à Raymond Hogg, qui est, bon, sur une... voix beaucoup plus, on va dire, peut-être difficile, enfin exigeante. Et ça m'impressionne énormément de me dire que je suis dans une ville où plusieurs centaines de personnes autres que moi, depuis des années, savent qu'il existe, viennent le voir, donc des gens que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est, voilà, et se sont intéressés, par exemple, à une démarche de ce type, viennent, reviennent, ont vu des pièces qui ont parfois été des chefs-d'œuvre. Et voilà, c'est impressionnant de penser à ça. Il y a un moment, pour revenir à la question publique aussi, un autre moment où j'ai vibré avec cette question-là, c'est le soir du spectacle de Mathilde Monnier avec les amateurs. Où, à ma grande surprise, je connaissais personne sur le plateau. Donc, parmi les amateurs eux-mêmes qui interprétaient la pièce, mais qui étaient réellement des amateurs, gens qui aiment la danse ou qui en font un petit peu, certains n'en faisant pas du tout, simplement amateurs au sens de bien aimer la danse. Et je m'attendais à en connaître la moitié, hein, les avoir déjà croisés dans des halls de théâtre et tout, et pas du tout. Et ça aussi, ça m'a touché. Je me suis dit, bon Dieu, être dans une ville de danse, c'est qu'il y a quelque chose qui travaille, qui se fait, qui existe, qui est toute une histoire, effectivement, qui remonte à, donc, on parlait du festival en 80.
80
la saga Bagoué, la saga Monnier, toutes les autres compagnies indépendantes, etc. Effectivement, il y a quelque chose qui est là, quoi, un tissu. Raymond Hogg raconte comment une fois, il cherchait un parfum très rare, difficile à trouver et tout, et comment il est arrivé dans une pharmacie, je ne sais pas pourquoi, une pharmacie.
Ah oui, je me rappelle.
Qui est, on va la nommer, pourquoi pas, après tout, c'est la pharmacie qui est en face des, à côté sur la place où il y a le Novelty, là, en face des Al Castellan. Et que la. En fait, cette pharmacienne que je connais, Lina Lidadan, hein, je sais pas qui c'est, je n'ai jamais vu, mais l'a reconnue et du coup lui a offert ce qu'il venait chercher. Et ben voilà, bon, ce n'est pas ma pharmacienne, j'habite pas ce quartier, je suis un peu plus loin. Mais je trouve ça très touchant.
En même temps,
de me dire que ça pourrait être ma pharmacienne, que ma pharmacienne partage cette admiration pour Raymond Hogg. Voilà, ben ça grandit la vie. Ça l'épaissit.
Oui, c'est très touchant comme anecdote qu'il avait racontée Raymond.
En même temps, il passe pas inaperçu, Raymond. Et puis, il y a Kant qui disait que la pédagogie, c'était l'art de la répétition. Et il se trouve que Raymond vient souvent. Il est programmé par Jean-Paul Montanari, qui a une tendresse pour cet homme. Et puis
on a vu presque toutes ses pièces, je pense.
Donc, il y a ce côté-là aussi. Hein, c'est que les gens, effectivement, le voient tout le temps programmé et se disent cette année, j'y vais. Quoi.
C'est le fait d'une ville de danse. Il y a eu une aventure, par exemple, qui est un peu passée maintenant. Mais il y a par exemple l'aventure avec Trisha Brown, il y a eu, on pourrait en citer pas mal d'autres comme ça, où il y a effectivement un compagnonnage, un voyage tous ensemble.
Oui, puis un souci de cohérence aussi, la durée, on sent une patience aussi d'éduquer le public.
Cunningham, par exemple, aussi, ça a été...
Alors, on va bien parler du Ballet de Lorraine, ce sera le dernier spectacle de danse. Alors, il y en aura deux hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une pièce, donc In the Upper Room, une pièce de 86 de Twyla Tarp qui sera jouée, et puis Objet retrouvé de Mathilde Monnier. Alors, un tout petit mot sur la pièce de Twyla Tarp, si possible.
Alors, c'est celle que je n'ai pas vue des deux.
Ouais.
Donc,
mais en historien.
Twyla Tarp, c'était une, tout à fait une contemporaine, hein, une congénère, si j'ose dire, de Trisha Brown. et qui a eu une autre évolution après la grande phase des expérimentations du début des années 80, des années 70 plutôt, et du début des années 80. Elle a évolué plus vers le... Elle est revenue vraiment au show, on peut dire, y compris aussi à la danse classique, en fait, etc. Donc, c'est un personnage un peu qui brasse beaucoup de choses, qui est bouillonnante, qui est... Et donc, je n'ai pas vu cette pièce, mais elle est très célèbre. Il paraît qu'elle est très, très marquante, très enlevée, pleine d'énergie.
Et
puis elle a aussi fait des choses pour carrément le patinage artistique. Enfin, vraiment, elle est allée dans tous les sens.
Elle a, voilà.
Vraiment, 9, 8, 9, 7, 8, 5. Bravo.
Voilà. Oh, félicitations.
Une petite précision qui n'est pas mince quand même, c'est que Peter Jacobson, qui est le directeur du ballet, bon, donc lui ne danse pas alors qu'il ne chorégraphie pas. Il dirige cette formation, il fait les choix, quoi. Voilà. Fut danseur de Twilight Harp à New York à l'époque. Oui, et je pense ça a un intérêt particulier. C'est pas un hasard s'il la programme.
Enfin, oui,
une complicité. Oui. C'est sûrement un élément qui a joué dans le succès de cette reprise. Parce que je crois que c'était un succès. Hein. C'est vraiment...
Oui, puis c'était
ceux qui l'ont
cohérent.
Vu en parlent très, très bien.
C'était très cohérent avec le thème de la mémoire aussi sur le festival.
Oui, bien sûr.
Dans ce lien d'héritage, ce lien de mémoire. Mmh.
Et... Bien entendu.
Qu'on retrouve le lien de mémoire avec Objet retrouvé de Mathilde Monnier, une pièce de 2012 où là, donc, c'est avec les danseurs du ballet de Lorraine qui, eux, jouent alors des danses de répertoire, donc ils changent régulièrement de danse, et c'est comment ils s'approprient finalement la mémoire, c'est une question de la mémoire du corps.
Oui, alors un ballet de répertoire, par définition, leur fonction, c'est d'avoir plein de pièces à leur répertoire, donne un nombre incalculable d'une grande quantité, effectivement, de chorégraphes, donc de très divers, et dans une année, ils en apprennent comme ça 5-6 nouvelles. Voilà, donc effectivement, la question, c'était... En soi, la pièce elle-même, c'est effectivement comment ils traversent ça, qu'est-ce que c'est que cette mémoire spécifique du danseur, comment ça s'engrange, comment ça s'inscrit, comment ça s'engramme dans le corps. Mais je pense qu'au-delà de ça, Mathilde Monnier leur a surtout donné la parole, c'est-à-dire leur a demandé vraiment de parler de leur expérience et finalement de dire ce qui leur passe par la tête pendant qu'ils dansent. Et ça, c'est assez révolutionnaire, je vais le dire un peu vite, mais si vous voulez, ces ballets, c'est souvent des formations où les interprètes sont quand même vraiment des exécutants. D'excellents exécutants, de très bons techniciens, de bons virtuoses, mais voilà, qui font un peu de l'abattage, qui font tourner le répertoire. Voilà, et donc, c'était très neuf que d'en faire des protagonistes plein entier, leur donner la parole. Et ça, c'est quand même un danseur contemporain habituel, une compagnie, il est habitué à être au cœur de la création. Là, c'est pas leur job, quoi. C'est pas habituel qu'ils aient. Voilà. Et du coup, ça fait un peu écho à l'autre pièce qu'on a vue, que j'évoquais auparavant, où elle donne la parole à des amateurs aussi. C'est pas une parole qu'on écoute forcément, qu'on légitime forcément. Bon, on se dit, c'est bien sympa, ils sont gentils, mais bon, non, c'est un peu, c'est du même ordre. Hein. C'est la parole à ceux qui, quand même, ne l'ont pas habituellement.
Oui, puis il y avait une question du droit aussi, le droit qu'on se questionne. Est-ce qu'on peut reprendre du Cunningham? Est-ce qu'on peut revisiter ce genre de choses? Est-ce qu'on s'accorde ce droit-là?
Ce qu'elle disait, c'est à qui appartient finalement
la pièce. Oui, parce que la pièce appartient autant aux danseurs qu'aux chorégraphes, c'est ce qu'elle disait en fait.
En fait, oui, dans ce cas-là, je pense, j'y connais rien, mais je pense que les droits légaux, du point de vue légal, c'est exclusivement le chorégraphe. Mais du point de vue de la pièce effective, c'est quand même en grande partie les interprètes.
Effectivement, oui.
Voilà.
On va écouter Mathilde Monnier et puis Peter Jacobson, c'était hier, lors de la conférence de presse menée par l'ISOT.
Il ne faut pas oublier que c'était la première pièce où il y avait un mélange entre les danseurs contemporains et les danseurs de ballet dans ce temps-là. Je pense qu'elle était la première qui a fait ce mélange entre les deux dans une ballet. Oui, je pense aussi que, mais ça c'est peut-être personnel, qu'on voit très bien les années 80 là. C'est très Jane Fonda workout. Et il y a beaucoup d'énergie avec la musique de Philip Glass, etc. Mais ça c'est une chose très importante aussi de comprendre les années 80 aussi. Pour moi, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que c'est une compagnie d'aujourd'hui, de répertoire et de création? Parce qu'en fait, c'est pas, nous sommes un centre chorégraphique national, ce n'est pas un chorégraphe qui travaille là, on fait des créations, on fait des pièces historiques, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pour moi, c'est important qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe un mix, juste comme ça, qu'il y a un lien. Et pour l'éducation, je peux dire, l'éducation de le public et quand même pour les danseurs eux-mêmes, de comprendre pourquoi je danse et pourquoi je fais des choses que je fais aujourd'hui, il y a une histoire, etc. Cette saison, saison dernière, j'ai dédié aux des chorégraphes et des créateurs femmes. Je me posais la question, pourquoi on dit le ballet, mais la danse? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus féminin avec la danse et plus masculin avec le ballet?
Avec la direction de ballet.
Voilà, ouais. Ça c'était la grande question. Et enfin, j'ai dit, OK, on va faire une saison seulement avec des créateurs femmes. Et Mathilde fait partie d'une soirée de trois choses. On a fait une installation performance, Femmes bûcherons, devant le Grand Théâtre à Lorraine. Plus que 60 femmes, 50 ans plus, qui a coupé du bois. Et j'étais les haches, et voilà, ça c'était le performance. Et après, il y avait les deux créations de Maria Laribou, Exécution, et Mathilde, voilà, Objet retrouvé. Ça c'était le début de notre session, et voilà.
Ce qui m'a intéressé, c'est l'idée d'une compagnie de répertoire. D'ailleurs, j'étais assez intriguée sur la façon dont les danseurs pouvaient fonctionner avec leur propre mémoire, comment est-ce qu'ils arrivent à remonter des rôles. Parce qu'on sait que c'est une compagnie qui, dans l'année, traverse parfois, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de pièces. C'est des danseurs qui, pour certains, connaissent jusqu'à 30-40 rôles de répertoire. Ils ont ça dans leur corps comme un espèce de patrimoine personnel. Et alors que nous, dans nos compagnies, finalement, on fait qu'une seule pièce. Et je me disais, mais comment est-ce qu'il s'arrange avec tout ça? Il passe d'un Forsyth à un Cunningham, à Gisèle Vienne, à Faustin Linquena. Donc c'était assez mystérieux. Et donc la pièce a porté là-dessus, c'est-à-dire essayer de leur demander d'expliquer donc au public. Quels sont les mécanismes qu'ils utilisent pour se remémorer les rôles. Donc on a travaillé essentiellement là-dessus, sur leur capacité de réactiver. Finalement, par exemple, s'ils pensent à un tel rôle dans une des pièces de Merce Cunningham, finalement, qu'est-ce qu'ils se rappellent d'abord? Ou d'un coup, il y a une pièce de... Il y a plusieurs pièces de Joël Bouvier et Régis, et notamment plutôt Joël Bouvier aussi seul. Je me disais, mais pour tel rôle, qu'est-ce qu'ils vont convoquer? Et donc, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, en fait, finalement, quand ils dansent? En fait, en gros, c'est ça, la pièce, c'est ça. Et qu'ils me le racontent. Donc, c'est vrai que vous allez voir tout de suite que c'est quand même un petit rapport en miroir avec qu'est-ce qui nous arrive, puisque là, j'interrogeais la mémoire des amateurs et la façon dont ils peuvent restituer cette mémoire. Et là, en miroir, en fin de festival... Il y a effectivement la mémoire d'un professionnel, sa mémoire corporelle, sa mémoire imaginaire, fictionnelle, les affects aussi qui sont liés au rôle. Donc les danseurs chantent, parlent, dansent bien sûr, il y a énormément de moments dansés, et donc font retour comme ça sur le répertoire. Alors il y a différentes manières de s'approprier la parole, ils parlent en dansant aussi, ce qui n'est pas toujours facile. Ils parlent parfois, c'est-à-dire on voit vraiment la mémoire qui est en train de se reconstituer. Et parfois, certains, notamment il y a un petit bout d'un Forsyth où on voit exactement à quoi ils font attention quand ils dansent. Alors parfois, on passe de la technique à une image, à ce qu'a dit la personne qui a transmis, parce qu'en fait on sait bien qu'en danse ça passe d'une personne à l'autre, c'est très oral, donc eux ils se souviennent de telles corrections, ou alors parfois c'est le regard, parfois c'est la lumière, parfois c'est... Donc c'est une espèce de succession d'outils finalement, qui est donnée comme ça aux spectateurs, comme des clés de compréhension.
Bon, la musique, ce sera seulement sur la première pièce et pas sur celle de Mathilde Monnier qui reprendra, elle, la musique des pièces qu'elle va jouer. Donc, elle a cité un certain nombre de chorégraphes. Il y en a combien, Gérard de...
Ah non, je ne sais pas.
Ah bon,
non. Je ne connais pas bon. Toutes les pièces.
Ah bon, Gérard.
Donc, nous sommes avec Gérard Mayen, c'est la dernière émission de ce festival Montpellier Danse sur Divergence FM. Alors, tu voulais ajouter quelque chose.
Oui, une petite chose par rapport au corps, justement, puisque là, on parle de mémoire dans cette pièce-là avec Mathilde Monnier, de ces danseurs qui vont se rappeler cette mémoire. Mais c'est quand même... une manière de se rappeler, puisque c'est des répertoires, des pièces de répertoire qui font appel justement à cette virtuosité, une approche de la danse qui est parfois classique, néoclassique, enfin contemporaine, mais vraiment avec cette technicité. Mais par contre, il y a aussi sur le festival d'autres manières de danser, d'appréhender le corps, qui est tout aussi pertinente. Voilà. Mais du coup, ce travail de la mémoire, il est visité autrement. Donc là, c'est une proposition qui va se présenté là avec ce travail, mais voilà, voir que ce n'est pas la vérité non plus absolue sur bien sûr on s'en doute sur le travail du corps et de la mémoire, en tout cas c'est très intéressant parce que ça éclaire encore une fois un aspect de qu'est-ce que c'est que l'esprit de la danse et à travers les mémoires, etc. Et tout au long du festival, c'est ça que j'ai énormément apprécié, c'est que vraiment il y a eu un éclairage par différentes facettes, différentes, on va dire, entre guillemets, sagesse de chaque artiste qui a proposé une vision différente, en fait.
Et notamment l'artiste invité, Emmanuel Gatt, qui fonctionne différemment avec ses danseurs, Gérard, parce qu'il est capable de changer les articulations de sa chorégraphie quelques heures seulement avant d'interpréter le spectacle. Ça fait appel énormément là aux danseurs. C'est vraiment... voilà, comme ça fonctionne la danse chez Emmanuel Gatt.
Exactement, avec du coup quand même cette remarque, je pense qu'ils sont extrêmement soudés. C'est une équipe très très fidélisée, très stable, et donc ils partagent un langage commun très structuré en fait. Bon, et qui permet alors ce que vous venez de décrire, tout en entretenant malgré tout un style extrêmement marqué et une écriture extrêmement rigoureuse, précise, parce que on pourrait croire naïvement à partir de ce principe là de composition que vous avez exposé, on pourrait croire du coup que ça serait un petit peu la grande improvisation presque au sens du grand n'importe quoi. En fait, ça donne une forme extrêmement tenue en même temps, extrêmement claire, précise.
Ce qui est la chose la plus difficile à faire, cette clarté.
Troisième pièce d'ailleurs d'Emmanuel Gatt qui sera jouée ce soir, c'est Danse de cour, c'est à l'intérieur de la cour de l'Agora, c'est à 22h30. À noter aussi qu'on peut toujours voir les photographies qu'il a faites dans un... c'est fini.
Parce que le spectacle François Chéniaud a pris le relais, donc il reste seulement
dans la même pièce. La photo, unique.
La photo dans le lieu inédit. Et j'en viens à l'instant, en attendant notre rendez-vous plutôt, j'en ai profité. Ça vaut la peine en soi. Il n'y a effectivement qu'une photo, mais dans une mise en espace qui...
singulière. On est seul à regarder cette photo.
Voilà.
Donc ça, c'est important.
C'est quasiment un spectacle, avec un montage lumineux, montage de son, etc. C'est presque un spectacle, c'est une installation, on pourrait dire.
Et j'ai juste moi un mot par rapport à François Chéniaud. Est-ce que tu l'as vu, Gérard?
Oui.
Et alors, un petit mot dessus peut-être? Moi, j'ai beaucoup aimé.
Parce que ça se joue jusqu'à demain encore.
Ça se joue jusqu'à demain, donc on peut redire...
Oui, alors c'est une... François Chéniaud, c'est quoi? C'est essentiellement une invention de soi permanente, cette idée que nous sommes en permanence en train de nous construire nous-mêmes. Donc ça, c'est formidablement réussi, ce personnage est magique. Après, j'ai des petites réserves auxquelles je ne m'attendais pas forcément, qui tiennent, je pense, beaucoup à l'espace. C'est-à-dire, finalement, on est censé être dans un rapport d'extrême proximité, petite forme solo, qui était annoncée dans une extrême proximité. On ne l'est pas tant que ça, on n'est pas si proche que ça. C'est assez vaste au bout du compte. Et il y a un truc bizarre, parce qu'il y a comme un catwalk, là, une circulation, on est des deux côtés, et puis il circule au milieu. Mais en même temps, il y a tout un espace au fond qui redevient frontal. Quoi. Il est au pied d'un mur de scène, finalement, de fond de scène. Donc on est là, on est
On est en U, hein, le
ça fait bref, il y a quelque chose qui... Bon, mais ça va se...
Il y a quand même un moment où, déjà, quand il arrive, hein, c'est surprenant. Là, on a l'impression qu'il va nous... C'est quelque chose qui va nous toucher. Puis après, il y a le serpent. Enfin, je ne sais pas non plus... Voilà,
bon, personnage, comment dire, absolument protéiforme. Puis il est en fait excellent chanteur.
Non, mais
aussi.
Il est incroyable.
Excellent chanteur, incroyable, en même temps que danseur. Et en plus, dans des registres vocaux...
très, très
gamme
large.
Vocale très large. Oui,
très grave, voilà. Et très aiguë.
Avec des chants dans des langues qu'on ne connaît pas. Ouais. Voilà, ça c'est franchement génial.
Absolument.
ça se joue encore trois fois demain, un peu ce soir. Ouais. Regardez sur le site de Montpellier Danse.
Vraiment, je vous encourage à aller le voir. Hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique.
Montpellier entre dans la danse. Chorégraphe, danseur et festivalier sont sur Divergence.
Ainsi s'achève donc cette émission. C'était la dernière de beaucoup d'émissions. Merci à Lucie.
Merci Vincent.
Voilà, de m'avoir accompagné cette année pour ce festival. Vincent. J'étais enchanté. Tu as fait un travail formidable qui
merci,
a été reconnu par Jean-Paul Montanari ce matin en conférence de presse devant tout le monde. C'était beau. Merci Gérard.
Merci de votre invitation. Gérard. Tout à fait à l'improviste, on peut merci, dire. Gérard. C'est sympa, c'est bien, c'est décontracté. Ça permet de réfléchir ensemble.
Oui, c'était super.
Et un grand merci à Bruno qui a réalisé cette émission
Bruno.
Pendant tout le festival
merci.
Également.